France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
Par purification ou régénération, elle promettait un perpétuel rajeunissement. La fontaine de Jouvence, issue de la mythologie biblique et classique, a beaucoup inspiré, notamment des artistes, mais également des scientifiques, à un point tel que l'on peut aujourd'hui se poser une question, et si ce mythe n'en était plus un ? Ça n'est pas du délire, dans les laboratoires de recherche, pardon, les résultats, certes encore expérimentaux, laissent réellement entrevoir des possibilités de ralentir le vieillissement, voire même de rajeunir certains tissus. Et l'enjeu est de taille, la proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va presque doubler d'ici 2050. Alors pourquoi vieillit-on ? Comment inverser le cours de ce phénomène ? Où en est-on des recherches ? Comment mesurer l'âge réel de nos organes ? Et nous-mêmes, que pouvons-nous faire pour vieillir au mieux ? Notre invité, pour qui le vieillissement n'est pas un destin immuable, répond à toutes ces questions. Jean-Marc Lemaître, bonjour.
Bonjour Marina.
Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, co-directeur de l'Institut de médecine régénératrice et de biothérapie à Montpellier, auteur d'un livre absolument passionnant, Décider de son âge, quel âge avez-vous vraiment, paru aux éditions Alary. Très indiscrètement, je peux vous demander votre âge ?
Oui, 62 ans.
Ça c'est l'âge chronologique.
L'âge chronologique.
On va y venir. En moyenne, les Français déclarent se sentir vieux à 69 ans. Vous ne les avez donc pas, mais vous vous sentez comment, vous ?
Je ne me sens pas vieux du tout. J'ai l'impression que je suis toujours capable de faire tout ce que j'ai toujours fait. Donc, quand je regarde ma montre connectée, elle me dit 56 ans. Donc, peut-être que voilà.
D'accord.
Ça m'aide.
Vous nous direz si vous faites quelque chose pour ne pas vieillir, voire pour rajeunir. Mais déjà, pourquoi vous avez choisi cette spécialité ? J'imagine quand même que quand vous avez commencé, on devait vous prendre un petit peu pour un illuminé, non ?
Alors, pourquoi j'ai choisi cette spécialité ? C'est parce que finalement, je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait une profonde injustice face au vieillissement. On vieillit vraiment à des vitesses différentes. Et certaines personnes ont des maladies de vieillissement très tôt. Et puis d'autres vont jusqu'à 100 ans en bonne santé. Donc, au départ, c'était quand même essayer de comprendre ces différences, et peut-être essayer de faire bénéficier à tous, dans un deuxième temps, une longévité en bonne santé.
Et donc, on vous prenait pour un illuminé au début ou pas ?
Alors, on m'a pris un peu pour un illuminé, mais parce qu'à chaque fois qu'on me disait « Mais qu'est-ce que tu fais dans ton laboratoire ?» Je disais « Je rajeunis des cellules ». Alors, effectivement, il y avait toujours un petit rictus, mais finalement, c'est ce qu'on a fait. Et on a pu quand même démontrer que le vieillissement était réversible et par la suite, ça a ouvert des portes importantes.
Et à partir de publications scientifiques, là, on s'est quand même dit que vous faisiez quelque chose de très sérieux. On va essayer déjà de comprendre ce qui se passe pour expliquer le vieillissement dans notre organisme. Il y a deux phénomènes essentiels, il y en a plusieurs, mais il y a deux phénomènes essentiels. On va essayer de faire très simple. Il y a d'abord ce qu'on appelle des cellules sénescentes, dont le nombre augmente quand on avance en âge. C'est quoi ces cellules sénescentes ?
Alors en fait, dans nos tissus, dans nos cellules, on est composé de milliards de cellules. Et l'objectif, c'est de, lorsque les cellules sont endommagées, de maintenir quand même un tissu fonctionnel. Donc quand ces cellules sont stressées, endommagées, eh bien elles doivent faire des choix. Soit elles sont trop endommagées, donc elles s'auto-détruisent. Il y a un mécanisme intime de la cellule qui permet de détruire la cellule. C'est plutôt pas mal pour éviter qu'elle parte vers une voie de cancérisation. Et puis un autre état, elle peut plus détruire la cellule, mais elle rentre dans un état de sénescence. Elle ne se divise plus. Elle est entre la vie et la mort. Les Américains appellent ça les zombie cells. Mais elle se met à sécréter tout un ensemble de facteurs. Au départ, certains sont positifs parce que le tissu est endommagé. Elle sécrète des facteurs pour lancer une réparation dans le tissu. Et puis à un moment, elle est quand même endommagée, donc elle a mis en place une sécrétion de certains facteurs qui vont créer de l'inflammation. Et ça, c'est un signal pour notre système immunitaire inné de la reconnaître et de la détruire. Donc tout au long de la vie, en majorité, ces cellules sénescentes ne restent pas très longtemps. Elles ont plutôt une vocation à réparer au départ.
Donc ça, c'est un phénomène. L'autre, c'est ce qu'on appelle la déprogrammation des cellules.
Oui, alors, une cellule endommagée, soit elle s'autodétruit, soit elle rentre en sénescence. Et puis l'autre type de cellule, c'est ces cellules qui finalement vieillissent, qui arrivent à se réparer, mais qui gardent des marques au niveau de l'expression des gènes. C'est-à-dire que finalement, les gènes qui sont programmés, à s'exprimer dans, au cours du développement embryonnaire, dans un type cellulaire ou un autre, de façon souvent différente, puisque une cellule de cœur n'est pas une cellule de peau. Et bien, petit à petit, cette programmation, eh bien, je dis qu'elle se déprogramme, c'est-à-dire que les gènes vont s'exprimer un peu moins bien, on va avoir des gènes qui ne doivent pas s'exprimer, qui vont s'exprimer, etc. Donc, finalement, la cellule se déprogramme, elle vieillit. Et l'idée m'est venue avec mon laboratoire, et c'est sur cette thématique que j'ai démarré mon équipe sur le vieillissement, c'est de reprogrammer ces cellules qui étaient finalement déprogrammées. À l'époque, on ne savait pas où on allait aller réellement.
On va y venir tout de suite, mais si je comprends bien, tout ça va permettre de nous donner notre âge biologique, qui est le véritable en fait, indicateur de santé, puisque c'est lui qui reflète la dégradation réelle des organes, du cerveau, des cellules. Alors que l'âge chronologique, c'est notre date de naissance. Est-ce que ces cellules, ces naissantes, ces cellules déprogrammées, on peut les mesurer chez chacun de nous ?
Alors oui, aujourd'hui, on a des indicateurs pour à la fois mesurer la sénescence. Les facteurs qui sont sécrétés nous donnent, c'est une bonne indication pour nous dire, en gros, le taux de sénescence qu'on a dans notre organisme. Alors, généralement, on fait ça sur le sang. Une prise de sang, parce que le sang, finalement, c'est le miroir du vieillissement de nos organes. Tout ce qui est sécrété, tout ce qui est abîmé, ben, se met par circuler. Et donc, on a accès à tout ça.
On peut déjà le faire.
Oui, on peut déjà le faire. Par exemple, avec 7 facteurs combinés dans le sang, on peut mesurer un index de sénescence, savoir le niveau de sénescence dans notre corps. Et si on veut regarder un peu plus finement ces cellules déprogrammées, on peut mesurer ce qu'on appelle l'âge biologique, l'âge épigénétique, entre guillemets, un terme un petit peu, voilà. Mais finalement, avec ça, on peut savoir si vous avez 10 ans de plus ou 10 ans de moins. Et ça, lorsqu'on sait que le premier facteur de risque d'apparition des maladies liées à l'âge, c'est le vieillissement, c'est un bon indicateur pour savoir s'il faut prendre en charge les gens. Si leur âge chronologique est équivalent à leur âge biologique, on va rien faire.
Mais est-ce que cet âge biologique, on pourrait le mesurer systématiquement au cours de nos bilans, comme on fait aujourd'hui la glycémie, la prise de tension ?
Bien sûr, ça se fait. Vous pouvez envoyer votre sang aux États-Unis, on ne l'a pas dans notre système de santé, on n'a pas une entreprise qui a pris en charge un développement de ce test, qui l'a proposé à nos autorités de santé. Et c'est actuellement, le coût dans les laboratoires de recherche, c'est à peu près 2 000 euros.
D'accord.
Donc, pour savoir si vous avez 10 ans de plus, c'est peut-être pas mal quand même.
Mais à quel âge il faudrait commencer, idéalement, le jour où on aura ça de manière facile ?
Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, c'est que sur des cohortes de personnes entre 50 et 70 ans, des milliers de personnes, il a été mesuré que, à nouveau, avec ce qui circule dans notre sang, que 20% de la population avait au moins un organe qui vieillissait prématurément. Et si on regarde 10 ans plus tard, eh bien, ces personnes ont la pathologie qui correspond au vieillissement de l'organe. Donc ça, on pourrait déjà 50 ans, vous voyez, au-delà de 50 ans. Donc je pense que c'est un âge où non seulement on sait que les cellules sénescentes s'accumulent, mais que les cellules ont vieilli, qu'elles sont endommagées. Globalement, à 50 ans, on fait déjà d'autres tests que nous envoie le système de santé.
D'accord.
On pourrait rajouter un test de ce type-là, oui.
Alors, vos travaux, dans votre laboratoire, vous avez réussi à montrer qu'on pouvait rajeunir des cellules de centenaire et reprogrammer une souris de laboratoire pour augmenter sa longévité de 15%, si j'ai bien compris. Vous pouvez nous expliquer ça ?
Oui, alors en fait, la première chose qu'on a fait dans mon laboratoire, c'était de dire, bon, les cellules sont déprogrammées, on va les reprogrammer. Et on avait bénéficié d'une découverte qui a été fabuleuse, qui a valu le prix Nobel de physiologie et de médecine au professeur Yamanaka, qui avait montré qu'on pouvait prendre une cellule d'un adulte avec 4 facteurs de reprogrammation, la convertir en une cellule équivalente à une cellule souche embryonnaire. Ce qui veut dire...
Ces cellules souches qui peuvent ensuite donner tout type de cellules.
C'est ça, qui sont très tôt dans l'embryon, c'est équivalent. Elles peuvent donner tous les types de cellules, des pseudo-organes, tissus, etc. Et donc, l'idée est venue d'aller reprogrammer des cellules très âgées et des cellules qui étaient rentrées en sénescence. Alors, dans un premier temps, avec ce fameux cocktail de M. Yamanaka, ces 4 facteurs, ça n'a pas marché. Mais on a essayé de
booster un peu ça,
pousser un peu les choses. On a rajouté 2 facteurs et ça a fonctionné. Et là, on s'est rendu compte qu'au passage, On était parti de fibroblastes de la peau.
Ah, donc des cellules humaines.
Des cellules humaines, fibroblastes de la peau. On les a reprogrammées, on les a redifférenciées en fibroblastes. Et on s'est rendu compte qu'on avait effacé les marques du vieillissement. À l'époque, on ne savait pas mesurer l'âge biologique. Aujourd'hui, on sait le faire. On sait que maintenant, ce qu'on a fait, ben, on remet ces cellules à un âge zéro.
D'accord.
De 100 ans, ben,
on revient à la naissance.
À l'âge zéro. Voilà. Alors, bien sûr, sur des modèles animaux, l'idée, c'était d'appliquer ça un jour à l'homme. Et donc, il fallait passer par un modèle préclinique, un modèle animal. Et on ne pouvait pas se permettre de retourner à l'état embryonnaire. Donc, il y a eu pas mal de laboratoires, en même temps que le nôtre, qui avons dérivé une stratégie qu'on a appelée la reprogrammation transitoire. On ne va pas si loin. On lance le processus, on garde l'identité de nos cellules et seulement on leur donne un petit coup de jeûne. Quand on fait ça, à nouveau dans la boîte de culture, on peut gagner 10 à 20 ans.
Oui.
Et quand on le fait sur des modèles animaux, eh bien on peut gagner jusqu'à 30% de longévité.
D'accord.
En bonne santé, sans maladie du vieillissement. Alors ça, si on le fait de façon chronique, c'est-à-dire qu'on reprogramme, on lance, puis on recommence. Si on le fait une seule fois, même tôt dans la vie, 15% de vie en bonne santé, sans maladie du vieillissement, pas d'arthrose, pas d'ostéoporose, pas de fibrose pulmonaire, une amélioration de la composition corporelle, etc. Donc, un vrai bénéfice.
Donc, vous avez fait ça sur des cellules humaines, sur des souris, et l'essai humain, c'est pour quand ?
Alors, bien sûr, chez l'humain, c'est beaucoup plus complexe. Hein, il faut pouvoir suivre ce qu'on fait, il faut aller... imaginons qu'on puisse injecter ces facteurs. On le ferait aujourd'hui avec des ARN messagers. On a vu que ça fonctionnait. Il faut aller vérifier, si on injecte ça dans la circulation sanguine, il faut aller vérifier que tel organe, ça a bien fonctionné. Il faut faire des biopsies, etc. Ça n'est pas si simple. Donc on a pris le parti de commencer sur des modèles de peau. Parce qu'on peut avoir des explants de peau, des biopsies qu'on récupère, de reconstructions diverses.
Pas encore sur un corps entier.
Sur un corps entier. On veut faire une preuve de concept d'abord sur un modèle de peau pour ensuite essayer de s'adosser à un industriel et faire un premier essai pilote clinique chez l'humain.
Donc, l'idée, c'est de pouvoir reprogrammer nos cellules et puis pour ces cellules sénescentes, développer des médicaments qui les élimineraient.
Oui, absolument. Finalement, dans nos tissus, il y a ces deux types de cellules avec l'âge. Donc, si on cible les deux, ce qui a été fait à nouveau chez la souris, c'est que lorsqu'on utilise des petites molécules qu'on appelle des molécules sénolytiques, tout est dans le mot, on détruit les cellules sénescentes avec ces petites molécules. Il y en a énormément aujourd'hui qui ont été développées et beaucoup sont déjà en essais cliniques.
Oui.
Aux États-Unis, il y a une trentaine d'essais cliniques différents, mais sur différentes maladies du vieillissement. On sait par exemple qu'une petite molécule, la fisétine, sur des modèles de souris, eh bien, à nouveau, elle fait gagner 30% de vie en bonne santé. Donc, qu'on cible les cellules déprogrammées en les reprogrammant ou les cellules sénescentes en les détruisant, à chaque fois, on va à peu près à 30% de vie en bonne santé sans maladie du vieillissement. Ce qui veut dire que finalement, si on traite le vieillissement, comme si ça pouvait être considéré comme une maladie, eh bien, on évite les maladies liées à l'âge.
Ça veut dire que si on démarrait, par exemple, à 40 ou 50 ans, ce dépistage, cette estimation de l'âge biologique, dès ce moment-là, quand il y a un problème, il faudrait donner ces traitements ?
Oui, je pense que ce qu'il faudrait mettre en place, c'est effectivement, dans un premier temps, l'évaluation, diagnostic, où vous en êtes de votre vieillissement, avec ces fameuses horloges biologiques qu'on peut utiliser. Ensuite, faire de la prévention, parce que parfois... Si vous êtes sédentaire...
On va en parler. On va en parler dans quelques instants. Mais donc, juste pour l'âge où il faudrait donner ces médicaments, c'est...
Alors, oui, dès qu'on dérive trop de notre âge biologique, et ça, c'est l'indicateur.
C'est ça.
Mesurer si on a trop de cellules sénescentes et si notre âge biologique est vraiment trop élevé.
Et est-ce que, pour aller encore plus en amont, on saurait prédire les personnes qui... du fait de leur génétique, vieilliront plus que les autres, et donc les traiter, eux, en priorité ?
Alors, en fait, toutes les études sur la génétique, les gènes qui sont impliqués dans la longévité, on n'a pas identifié, à part deux gènes, APOE4, ou, et FOXO, On n'a pas de gène de la longévité.
D'accord.
On sait qu'il y a des variants de gènes, des combinaisons de variants de gènes qui font qu'on va être un peu plus robuste et aller peut-être au-delà et peut-être aller à 100 ans. Mais c'est des combinaisons. D'accord. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas un gène unique, en fait.
Donc, vous l'évoquiez, axe très intéressant également, hein, parce que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est tout en même temps. La prévention, la vieillesse, c'est un programme biologique complexe, mais qui est influencé par nos gènes, mais également par notre environnement et nos expériences. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donnez-nous vos conseils pour qu'on puisse mieux vieillir, pour l'instant, au mieux, avec ce qu'on a comme possibilité.
Alors, on peut s'inspirer de ce qu'on observe dans les zones bleues, par exemple. Vous savez, c'est ces zones sur la planète où il y a des nombres exceptionnels de centenaires. Mmh. En 2023...
Centenaires en bonne santé, en plus.
En bonne santé. Et en 2023, Michel Poulain a identifié les Antilles comme une nouvelle zone bleue. Mmh. Cocorico, c'est là.
Oui.
On n'en avait pas. Voilà, on en a une. Et en fait... Ce qu'on voit dans ces différentes zones, pourtant dans des endroits différents sur la planète, entre Okinawa et les Antilles ou la Sardaigne, on n'est pas sur les mêmes modes de vie, mm-hmm. sur les mêmes climats, sur la même alimentation, mais il y a des dénominateurs communs qui sont quand même une alimentation saine, mm-hmm. Un exercice physique régulier et beaucoup de liens sociaux. Donc ça, c'est vraiment les déterminants. Alors... On a peu de comportements à risque aussi. Hein, ça, un conseil, c'est effectivement la fumée de cigarette, on le sait. On mesure l'âge biologique 10 ans de plus, d'accord. en moyenne, pour ces personnes. L'obésité, la sédentarité. Donc, on a tout un ensemble. Si on fait de l'exercice physique et qu'on fait attention à son alimentation et qu'on a des projets dans la vie, qu'on est un peu optimiste, parce que les études montrent aussi que quand on l'est, c'est 10 ans de vie en plus aussi. Donc, toujours voir le mon côté des choses, ça aide aussi.
Et ça, vous l'appliquez ?
Oui, je suis un optimiste, je dirais. voilà, oui. J'ai pas besoin, en fait.
Donc ça, il faut l'appliquer, évidemment, le plus tôt possible.
Oui, oui.
Et faut pas attendre d'être malade pour faire ça.
C'est ça. Et probablement qu'il y a une vraie éducation à mettre en place. Et très tôt, c'est à l'école que tout ça s'apprend.
Alors, au-delà des adeptes du bien vieillir, hein, qui font tout ça de manière raisonnable, il y a des particuliers qui sont convaincus de pouvoir vivre jusqu'à 150 ans, qui investissent, il faut le dire, des millions dans cette quête. Ainsi en est-il d'un multimillionnaire américain, Brian Johnson, qui tente tout pour cette quête. Écoutez-le dans Envoyé spécial, c'était sur France 2.
Avec mon équipe, on s'est dit, peut-on trouver la fontaine de jouvence? On a pris toutes les études scientifiques qui existent sur le vieillissement. On les a analysées et on a mis en place un protocole... Parfait. Si vous regardez mon cholestérol, mon cœur, mes poumons, ma vue, mon cerveau, la qualité de ma peau, des centaines de mesures le prouvent. Ce que je fais, tout le monde devrait le faire. Je bois ça et après je prends 54 gélules de compléments alimentaires.
Alors, il n'est pas le seul à être adepte des compléments alimentaires. Là, c'est quand même 54 gélules. Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est utile dans cette bataille pour bien vieillir?
Alors, comme il le dit, il a regardé toutes les études scientifiques. Alors, beaucoup d'études scientifiques sur le vieillissement et la longévité ont été faites sur des modèles animaux. Il y a très peu de choses, finalement, qui ont été faites chez l'homme. Mmh. Et donc, il se base sur ça. Il y a un certain nombre de choses qui sont probablement intéressantes. Le seul problème, c'est de combiner tout ça en même temps. On ne sait pas l'effet, finalement, que ça peut avoir. Alors, souvent, on le sait, quand on prend un médicament, on est obligé de regarder si ça n'a pas un effet contraire avec un deuxième médicament qu'on aurait pris. Et là, il a
54 gélules, oui.
Je ne sais, honnêtement, je ne sais pas ce que... En tout cas, ça n'est pas scientifique. Il dit pouvoir vivre peut-être jusqu'à 150 ans, mais peut-être qu'on va vivre jusqu'à 150 ans. On ne le sait pas. On a quand même Madame Calment qui a
122 ans.
122 ans. Donc, pourquoi pas avec les évolutions de la recherche.
Alors, il était allé plus loin, puisqu'il a fait des essais avec du plasma. En l'occurrence, il s'était fait transfuser le sang de son fils, qui avait 17 ans. Il l'a aussi injecté à son père de 77 ans. Bon, expérience certes folle, et puis c'est des vieilles idées, on voyait ça dans des films déjà il y a 40 ans. On sait quoi aujourd'hui ces transfusions de plasma?
Alors, la transfusion de plasma sur les modèles animaux, hein, sur les modèles de souris, ça fonctionne de façon vraiment très efficace.
Ça rajeunit?
Oui, ça améliore, ça prévient sur des modèles de souris d'Alzheimer, ça prévient Alzheimer, ça permet de récupérer la mémoire spatiale, ça permet même, sur un cœur dilaté, de restructurer le cœur et récupérer la fonction d'expulsion normale. Donc il y a un vrai effet rajeunissant. Alors on sait que dans le sang de jeunes, eh bien on a des facteurs qui sont là pour maintenir l'état juvénile. Et dans le vieux, eh bien c'est l'inverse. On a des facteurs qui sont pro-vieillissants. Donc c'est un équilibre entre les deux qui va plutôt vers les facteurs pro-vieillissants avec l'âge. Donc est-ce que ça fonctionne chez l'homme? Finalement, on ne le sait pas. Il l'essaye. On verra. Je sais qu'il y a quelques années, il y a une entreprise qui s'était installée aux États-Unis, Ambrosia, qui, justement, avait eu l'autorisation de la FDA pour mettre en place un essai avec du sang de personnes de 18 ans injectées à des personnes âgées. L'essai a été arrêté. On n'a jamais su pourquoi. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait des effets secondaires. Alors, chez la souris, par exemple, il y a une publication qui montre que sur des souris âgées, si on dilue le plasma, eh bien, on a un effet qui se rapproche. Parce que, on diminue les facteurs qui sont pro-vieillissants. Mmh. Et donc, en France, en tout cas, on peut donner son plasma. Donc, oui. Voilà, pourquoi pas.
Alors, je disais, il investit des milliards, lui. Si un jour, on avait tous ces examens de routine, des médicaments, la reprogrammation possible, comment on ferait pour que ça ne soit pas que les plus riches qui restent jeunes?
Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de choses, comme par exemple le repositionnement de certains médicaments. Hein, on sait qu'il y a des médicaments qui étaient destinés à traiter des pathologies, comme le diabète par exemple, la metformine, etc., qui sont des molécules médicaments qui ont déjà l'autorisation de mise sur le marché, qui nécessiteraient juste un repositionnement si effectivement on arrivait à montrer qu'il y a un effet anti-âge avéré. Et qui pourrait être donné. Je pense que c'est une première étape qui pourrait être rapide et qui sera accessible à tout le monde parce que ces molécules, elles sont dans le domaine public. Voilà. Ensuite, ce sera ces molécules sénolytiques, je pense, qui arriveront dans un deuxième
temps. Donc celles qui détruiront les cellules sénescentes.
C'est ça.
On continue avec la recherche, avec notre chronique science, et on continuera évidemment notre interview juste après. On plonge aujourd'hui dans le cerveau avec une étude qui révèle 4 H clés de la vie. C'est la chronique d'Alexandra Delbot.
Carnet de santé.
Les mots peuvent-ils éveiller des sensations dans le cerveau? Cela fait partie d'une nouvelle conception de la cognition. Pendant longtemps, on a pensé le corps comme étant assez séparé de l'esprit. Mais depuis les années 2000, une nouvelle théorie commence à s'imposer, celle de la cognition incarnée. C'est l'idée selon laquelle il y aurait une sorte d'inscription corporelle de l'esprit. C'est au départ une approche assez conceptuelle, mais elle commence à se vérifier concrètement dans le cerveau. Par exemple, on sait qu'imaginer donner un coup de pied ou attraper un objet active dans le cerveau les aires motrices, sans même bouger d'un millimètre. Et ce principe fonctionne aussi avec la lecture. Certains mots sollicitent des zones cérébrales liées à l'action qu'elles décrivent. Marcella Peyronet-Bertolotti est maîtresse de conférences à l'université Grenoble-Alpes et chercheuse au laboratoire de psychologie et neurocognition.
D'un point de vue neuronal, la cognition incarnée, il impliquerait des réseaux beaucoup plus distribués parce qu'en l'occurrence, c'est modal. Donc, par exemple, le fait de lire un mot, il ne viendrait pas uniquement impliquer des réseaux cérébraux de la lecture, mais aussi des réseaux cérébraux qui sont en lien avec les différentes modalités impliquées. En l'occurrence, par exemple, un verbe d'action de la main, il viendrait aussi impliquer toute la partie de l'action et des régions cérébrales en lien avec la mobilité effective. D'un point de vue des mécanismes, un des mécanismes, c'est celui de la simulation mentale, de la simulation, par exemple, motrice lorsqu'on parle d'une action. Il y aurait une sorte de simulation interne de cette action. Ou quand je me remémore quelque chose, quand j'imagine en train, ce soir, d'aller à la piscine et de nager, je m'imagine, j'aurais une sorte de simulation de cette action de nager qui serait automatiquement mise en place.
Mais est-ce que cela fonctionne aussi avec les sensations? Est-ce que lire « j'ai chaud » ou « j'ai froid » déclenche les mêmes zones que lorsqu'on ressent vraiment de la chaleur ou du froid? C'est exactement ce qu'a voulu tester cette nouvelle étude parue dans iScience. Et la région cérébrale qui est impliquée dans la perception des sensations, c'est l'insula qui joue aussi un rôle dans la douleur. Elle est enfouie très profondément dans le cerveau et donc, pour des raisons éthiques évidentes, il serait impossible de mener une étude simplement pour répondre aux questions que l'on vient d'évoquer. Les scientifiques ont donc en réalité invité à travailler avec des volontaires un petit peu particuliers. Des patients souffrant d'épilepsie sévère et qui, pour être soignés, ont été implantés d'électrodes. Au CHU de Grenoble, les chercheurs et chercheuses ont donc profité de cette fenêtre clinique pour mener une expérience. Tout en suivant l'activité électrique de l'insula, grâce à cet EEG intracrânien, ils ont demandé aux patients de lire trois types de verbes. D'abord, des verbes abstraits, comme « je rêve », « j'estime », « je réfléchis ». Ensuite, des verbes d'action, « je saute », « je verse quelque chose », « j'écris ». Et enfin, des verbes associés à des sensations désagréables, « je grelotte », « je me cogne », « je brûle » ou « je me coupe ». Et résultat, lire des mots liés à des sensations suffit à activer l'insula postérieure, la zone précisément impliquée dans leur perception réelle. Autrement dit, le cerveau réagit comme si le corps vivait vraiment la sensation.
Dans l'insula postérieure, et seulement dans cette région-là, qui est une région qu'on sait qui est impliquée dans le réseau de la douleur, de la sensation, etc., on observe une réponse très rapide et de façon assez distante, c'est-à-dire presque sélective, qu'est pour ce type de mots. C'est-à-dire une sorte de correspondance. C'est cette région, elle répond à la douleur, mais elle répond aussi aux mots qui font référence à la douleur et ne répondent pas pour toutes les autres. Ce qui est important ici aussi, c'est que pour les autres régions, cette différence n'est pas observée, ce qui montre bien qu'il y a cette relation entre la douleur effective et le ressenti de la douleur à travers la lecture de mots. Ce qui a été aussi très surprenant pour nous, c'est qu'on a pu avoir des réponses aussi subjectives, c'est-à-dire que chaque patient donnait un avis sur chaque mot, de combien pour lui c'était un mots qui induisaient la douleur ou la sensation. Et en fait, on a une corrélation entre l'activité de cette région et les réponses subjectives.
L'effet est donc subjectif pour chacun des 16 participants. L'insula réagit en fonction de ce que chaque personne associe à ces mots. Cela confirme à quel point notre expérience personnelle et nos souvenirs nourrissent cette cognition incarnée. Cette preuve d'une stimulation interne déclenchée simplement par la lecture est d'abord un apport théorique important, mais elle ouvre aussi des applications concrètes. Et c'est la suite de cette étude. Dans la réhabilitation, par exemple, réactiver certaines sensations grâce à la lecture après un AVC ou un traumatisme crânien, remobiliser des muscles avant même de pouvoir les bouger, aider les patients souffrant de douleurs chroniques à mieux moduler leurs ressentis ou encore, et cette fois c'est l'inverse, l'imagerie motrice pourrait elle aussi renforcer les capacités de lecture. Ces allers-retours entre corps et esprit par le biais du langage pourraient donc devenir à l'avenir des outils thérapeutiques.
Jean-Marc Lemaître, récemment, lors d'une rencontre à Pékin entre le président chinois Xi Jinping et Vladimir Poutine, qui ont tous les deux 72 ans, il y a un micro qui était resté ouvert. On les a entendus parler d'un possible recours aux greffes d'organes pour vivre plus longtemps, voire pour toujours. Changer ces organes, c'est une autre solution ?
Alors, je pense qu'il y a, une vraie méconnaissance du domaine, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on change des organes. Mais changer des organes régulièrement, on voit le temps et la lourdeur du système. Je ne pense, enfin, c'est complètement irréaliste. C'est vraiment de la science-fiction.
Oui. Et du traitement donné après.
Et avec des anti-rejets, tout le reste. Enfin, non, c'est. Je pense que voilà, ils ont fait le tour sur Internet de la science, et puis ils n'avaient pas de filtre en tout cas.
D'accord. Donc c'est pas ça la solution. On a bien compris que les travaux que vous faites vont être certainement beaucoup plus utiles. Je voudrais rappeler votre livre absolument passionnant, vraiment. Décider de son âge. Quel âge avez-vous vraiment? Qui est paru chez Alary. Et qui est tout à fait édifiant, que je recommande. Merci infiniment.
Merci, Marina.
Merci aussi à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission et à Julien Houlet qui l'a réalisée et mise en ondes.